Vincent Ferron, qui devra donc remplir deux rôles. Et donc Vincent, outre un ami, est substitut du procureur au parc. Alors que je ne dise pas de bêtises.
Procureur général.
À la cour d'appel. Et donc, il était bon que sur cette question, il y ait un parquetier. Et donc, je le remercie beaucoup de se joindre à notre réflexion. Comme à l'ordinaire, ce sera le philosophe qui commencera pour que vous ayez une montée en puissance des discours. Toute collectivité, quelle qu'elle soit, même la nôtre, si restreinte soit-elle, a à se poser la question de la violence qui est en elle. Toute collectivité, quelle qu'elle soit, un bus, une salle de classe, une famille, une entreprise, a comme premier et sans doute unique souci, même finalement, celui de la violence potentielle qui est en elle et qui peut surgir n'importe quand, n'importe comment. Il peut y avoir un démon qui tout d'un coup se met à hurler, à dire « ferme ta gueule, vieux schnock », ça peut être bien. Il peut y avoir une panique, comme on le voit dans des boîtes de nuit, des stades, etc. Et toute collectivité donc, met sur place des dispositifs pour prévenir cette violence. Alors c'est pour ça que nous sommes habillés, que nous nous disons bonjour, que nous sommes à peu près polis les uns à l'égard des autres, que ce dispositif, il a même des traces matérielles, puisqu'il y a des bancs qui vous permettent de savoir à peu près où vous placez. Sinon, ça serait aussi une occasion de plus de conflit. Et cette prévention du conflit, cette nécessité de tenir compte de la violence possible, consiste à rendre les personnes et les biens intouchable, inaccessible, en tout cas, à des gestes imprévisibles et violents. Et donc, on protège les personnes et les biens pour éviter que surgisse la violence. En cas de panique, on cessera de protéger les personnes et les biens. On n'y arrivera pas. On piétinera les personnes. On renversera les biens. On en profitera pour ramasser quelques portefeuilles au passage, etc. Alors, cette violence qui peut faire s'effondrer une collectivité à tout moment, elle apparaît dans quelques fissures qui sont les transgressions. Donc, les coups, les insultes, les vols. Et à chaque fois que dans une collectivité, une transgression apparaît, on devine la lave sous l'édifice qui a été mis en place. Que font les collectivités à l'égard de ces transgressions? Pratiquement toutes, elles ont pour solution de ne pas les voir et de faire qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire toutes les collectivités se protègent de la violence potentielle qui est en elles en évitant de désigner la transgression. Parce que désigner la transgression et dire « c'est toi !» c'est accepter la mise en crise de la collectivité. Et c'est pour ça qu'en famille, on évite le plus possible cette démarche qui consisterait à dire « c'est toi !» C'est pour ça qu'on dit « c'est le chien ou la belle-mère », en général ça, à ça que servent les chiens et les belles-mères. Et on dit « laver son linge sale en famille » pour dire « les familles ne passeront pas par le droit. Mais je crois que les familles ne lavent pas leur linge sale, elles le poussent sous le meuble. Parce qu'elles vont éviter justement la démarche d'accusation et a fortiori la démarche d'enquête. On ne peut pas poser la question qui l'a fait. Et donc pour que cette transgression, encore faut-il la voir, vous voyez, la voir. Une fois qu'elle a été vue, encore faut-il la désigner. Et puis, éventuellement, une fois qu'elle a été désignée, se préoccuper de la manière de la réparer ou de la poursuivre. Mais nous allons parler ce soir des tolérances à la transgression. Il faut prendre conscience que ces transgressions dont nous allons parler, elles sont vraiment la partie émergée d'un grand nombre de choses que nous ne voyons pas, que nous feignons de ne pas voir et devant lesquelles il est plus raisonnable de passer sans même les porter à la lumière. Et alors, évidemment, encore moins d'enclencher une démarche d'accusation. Les sociétés traditionnelles, alors primitives, traditionnelles, etc., il faut toujours s'excuser, ça y est, c'est fait, disons traditionnelles, les sociétés traditionnelles qui sont des petites sociétés, de toutes petites unités, sont extrêmement fragiles, précaires, et de telle sorte que la transgression y est rare et quasiment inconnue. Même impossible. Ce serait une catastrophe si, dans une tribu qui comprend 30-40 personnes, il y en avait un qui, à un moment ou à un autre, commette une quelconque transgression. Dans un sous-marin, on se tient à carreau, hein. Et dans un sous-marin, il n'est vraiment pas question que la moindre transgression se fasse jour. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans les sociétés traditionnelles, la pression de la coutume est extrêmement forte, parce que la coutume, c'est la mesure préventive pour éviter que, justement, apparaisse la violence. Dis bonjour à la dame. Et donc, toutes les manières de parler, de manger, de se déplacer, de prier, de jouer, de grandir, etc., sont réglés dans une société traditionnelle au papier à musique, de telle sorte que personne ne puisse s'autoriser la moindre déviation par rapport à un usage qui est absolument nécessaire pour corseter cette collectivité. Si de temps en temps, catastrophe, dans une société traditionnelle survient une crise, un meurtre, une catastrophe. Pratiquement, cette catastrophe, si on est obligé de la voir, elle fera l'objet de démarches qui ne sont absolument pas des démarches d'accusation. On va surtout, en général, protéger le coupable éventuel. Et on aura à son égard, c'est ce qu'on fait dans les familles, hein. Quand je dis société primitive, vous mettez famille à la place, c'est pareil. Dans les familles, on protège le coupable éventuel. Et toutes les familles, et toutes les écoles, et tous les quartiers, et toutes les paroisses, et toutes les chorales, et tous les partis politiques ont leurs pédophiles, leurs trucs comme ça, on le protège. Et on évite d'enclencher la démarche de mise en lumière. C'est très intéressant. Alors, il faudrait que je développe davantage, si vous m'y invitez, je développerai, mais de voir comment les sociétés primitives enclenchent des processus de protection de celui qui, catastrophe, s'est trouvé être une espèce de paratonnerre du mal. Alors, il y a des conduites sacrificielles, il y a la conduite de la vengeance, il y a toutes les conduites de purgation qui vont laver cette transgression qui met en danger toute la collectivité. De telle sorte que les procédures de mise en accusation, d'enquête et de réparation sont extrêmement rares. Elles sont même à la limite impensables. Il faut, pour qu'il y ait une démarche d'accusation, d'enquête et de réparation, il faut une cité forte, comme Athènes, par exemple, des lois, l'intervention d'un tiers. Mais quelle tribu accepterait l'intervention d'un tiers ? Elle ne peut pas. Et que ce tiers, donc, ait un statut neutre et impartial, permettant justement la distribution de la parole, alors même que la plupart du temps, dans les collectivités, c'est justement cette distribution de la parole que l'on va soit déformé par une parole mythique, on va éviter la parole juridique par une parole mythique, c'est la démarche sacrificielle ou celle de la vengeance. Et donc, lorsque nous parlons ce soir de la tolérance à l'infraction, il faut prendre conscience que cette question se pose pour des gens qui ont déjà je ne sais plus, le mot est de trop, parce qu'il supposerait qu'il y ait un un progrès, mais qui ont une conception extrêmement élaborée du droit, ce qui est loin d'être le cas dans un grand nombre de sociétés. Et dans notre société même, c'est loin d'être le cas dans un certain nombre de couches. J'évoquais la famille, on peut en évoquer d'autres. Donc l'apparition de la règle suppose, je l'ai assez montré, d'accepter donc la mise en lumière de la faute, c'est-à-dire au fond de l'impensable, la catastrophe. Comment est-il possible que quelqu'un tout d'un coup ait eu cette conduite ? Elle suppose donc l'individualisation de l'acte, que l'on se dise que cet acte a une source, que cette source est une personne. C'est très rare de se dire ça. Et la démarche d'enquête est inséparable d'une certaine perception de la personne humaine, comme sujet responsable qui sera le terme du processus de remontée des causes. J'évoquais la vengeance. On ne s'y arrêtera pas parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais justement, dans la vengeance, on ne se préoccupe absolument pas de connaître l'identité du sujet acteur qui est derrière l'acte. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on évitera en général que la vengeance porte sur celui qui a commis l'acte. Parce que si la vengeance portait sur celui qui a commis l'acte, on aurait, pour le coup, une imputation à la personne. Et donc l'aveu d'une liberté de la personne. Et toutes les grandes fatalités bien connues de la tragédie grecque, les Atrides et tout ça, viennent justement de ce que on ne peut pas attribuer un acte à une personne. Alors on dira c'est une famille, c'est une lignée, c'est le sang, c'est les dieux, c'est le destin. C'est le destin qui évite donc d'avoir à désigner une personne responsable tenue de rendre compte de son acte. Alors une fois que l'on a accepté dans une collectivité de mettre en lumière la transgression, une fois qu'on a accepté qu'éventuellement cette transgression peut avoir sa source dans un sujet à qui on peut imputer l'acte, alors on peut se demander comment la collectivité va pouvoir soit exclure, soit réintégrer, soit réparer l'acte qui a été commis. Et c'est là qu'intervient la préoccupation de la règle de droit, comme tentant d'établir une équivalence entre des actes et des sanctions, par l'équivalence qui suppose, je l'ai dit, le recours donc à un tiers. Donc c'est la fameuse image de la balance sur laquelle on est souvent revenu ici. Seulement, voilà, la coutume, les usages, les mythes, les rites, ils interviennent a priori avant l'acte. Nous dirions-nous que ce sont des mesures préventives. Une fois que l'acte a été vu, c'est, pour ainsi dire, trop tard. Le mal est fait. Et là, il va être difficile de concevoir comment le réparer. Et la question qui se pose est donc la suivante, c'est la règle de droit nous permettra-t-elle de vivre à nouveau ensemble ? C'est-à-dire, la règle de droit est-elle vraiment une solution pour, comme le peut le faire le mythe, le rite et la coutume, pour éradiquer le mal dans une collectivité ? Alors je disais que dans une société coutumière, la transgression est rare, impensable, et catastrophique et du coup entraînerait des conduites à leur tour extrêmement violentes comme vengeance. La question donc que pose la transgression, c'est de savoir, une fois que celle-ci est reconnue, est-ce que la règle de droit peut venir à bout du mal ? Dans le recueil de textes, je propose comme premier texte le texte qui fait référence à Dracon. Tout le monde connaît Dracon, puisque tout le monde connaît l'expression « une loi draconienne ». Or, quelle était la loi de Dracon, un des fondateurs d'Athènes, l'Athènes d'avant l'âge classique ? Eh bien, la loi de Dracon, c'était la loi parfaite, puisque c'est celle qui prévoyait la peine de mort pour toute faute. Que ce soit le vol d'une pizza ou d'une banque. Voilà, donc c'est dans les vies parallèles de Plutarque. Pour toutes les fautes ou presque, Dracon n'avait fixé qu'une peine, la mort. On mettait à mort ceux qui avaient été convaincus d'oisiveté. Les voleurs de légumes ou de fruits subissaient le même châtiment que les sacrilèges ou les assassins. Les sacrilèges. Parce que le sacrilège, il fait justement vaciller la collectivité. Nous, maintenant, les sacrilèges, on les met sur les timbres-poste. C'est une autre solution. Mais le sacrilège est aussi grave que le vol du légume, parce que le sacrilège fait vaciller la collectivité sur ses fondements. Aussi plus tard, appréciait-on fort ce mot de Démade, « Les lois de Dracon n'ont pas été écrites avec de l'encre, mais avec du sang. » À chaque fois que la règle de droit veut extirper le mal de la collectivité, eh bien, elle prend des formes draconiennes, puisqu'elle va faire apparaître toute transgression comme également impossible et également susceptible de faire vaciller la collectivité. Et on a vu cela, et on le voit encore, dans les régimes totalitaires. D'ailleurs, au fond, que sont les régimes totalitaires, sinon des espèces de tribus sur des millions de personnes ? Avec la même idée d'une collectivité qui ne forme qu'une seule âme et qu'un seul corps. Seulement, quand ça porte sur des millions de personnes, c'est autre chose que quand ça porte sur 30 Amérindiens dans une clairière. En effet, les grands régimes totalitaires que l'histoire a connus ont tous pour caractéristique d'avoir voulu mettre un terme au mal. Et d'avoir voulu mettre un terme au mal par l'intermédiaire d'une loi qui puisse poursuivre, avec au fond la même sévérité, comme Dracon, tous les délits, toutes les transgressions, tout ce qui est susceptible de faire vaciller la collectivité. Et lorsque un pauvre cordonnier avait le malheur de planter son épingle dans le journal sur lequel il y avait la photo de Staline, ben c'était 10 ans comme pour tout le monde. Et quoi que vous fassiez, c'était de toute façon 10 ans. Donc planter une épingle dans le visage de Staline, envoyer une lettre en disant « il fait froid », alors qu'on est censé être heureux, dans tous les cas, 10 ans. Et c'est exactement donc la même logique, seulement dans une perspective un peu plus inquiétante. D'où ce que dit saint Thomas d'Aquin dans le recueil de textes que vous avez, lorsque saint Thomas d'Aquin pose la question, donc vous savez comment est faite la somme théologique, donc ce sont des questions avec des objections, des réponses, des solutions. Ça vous permet, pour ceux qui n'ont jamais vu comment est écrite la somme théologique, d'avoir un aperçu du genre de texte auquel saint Thomas d'Aquin s'est livré. Et c'était les modalités d'enseignement de son époque. Or, saint Thomas d'Aquin, dans cette fameuse question 96 de la Secunda Secundae, dit « On ne peut pas demander au droit, on ne peut pas demander à la règle de droit d'éradiquer le mal. » Et si la règle de droit prétendait éradiquer le mal, elle serait, au fond, la pire de toutes. Elle commettrait un plus grand mal que celui qu'elle a voulu provoquer. Et c'est ce que l'on a ensuite appelé la tyrannie du bien. Les attitudes qui pensent, les justices révolutionnaires qui veulent éradiquer le mal définitivement à coup de loi. On lit rapidement le paragraphe appelé « Réponse ». « Nous avons déjà dit que la loi est établie comme une règle et une mesure des actes humains. Or, la mesure doit être homogène au mesuré. Il faut en effet des mesures diverses pour des réalités diverses. Il s'ensuit que les lois, elles aussi, donc on n'est plus du tout dans Dracon, il s'ensuit que les lois, elles aussi, doivent être imposées aux hommes suivant les conditions de ceux-ci. Saint Isidore le déclare, la loi doit être possible. » On ne demande pas un fer à repasser de s'envoler. Et selon sa nature et selon la coutume du pays. Or, la puissance ou la faculté d'agir procède d'un habitus ou d'une disposition intérieure, car la même chose n'est pas possible pour celui qui ne possède pas l'habitus de la vertu et pour le vertueux. Pareillement, une même chose n'est pas possible pour l'enfant et pour l'homme fait. Ce qui est aussi une des questions que nous rencontrons sans cesse. À partir de quand va-t-on dire, ici, il y a transgression, la transgression doit être poursuivie, etc. C'est pourquoi on ne porte pas une loi identique pour les enfants et pour les adultes. On permet aux enfants beaucoup de choses que la loi punit ou blâme chez les adultes. Et pareillement, on permet aux hommes imparfaits beaucoup de choses que l'on ne doit pas tolérer chez les hommes vertueux. La règle de droit n'est pas le régime de la vertu. La loi humaine est portée pour la multitude des hommes. Et la plupart d'entre eux ne sont pas parfaits en vertu. C'est pourquoi la loi humaine n'interdit pas tous les vices dont les hommes vertueux s'abstiennent, mais seulement les plus graves. Enfin, les plus graves, ceux qui sont accessibles, à vrai dire. Dont il est possible à la majeure partie des gens de s'abstenir, et surtout ceux qui nuisent à autrui. Sans l'interdiction de ces vices-là, en effet, la société humaine ne pourrait durer. Aussi, la loi humaine interdit-elle les assassinats, les vols et autres choses de ce genre et encore. Je terminerai pour laisser parler l'expérience de Vincent Ferron par une lecture à pas forcer du texte de Nietzsche que je propose dans ce recueil de textes. Que nous dit Nietzsche dans ce texte? Bien, il nous dit au fond, plus une société est forte, plus elle est tolérante à l'infraction. C'est ce que j'ai essayé de décrire dans la situation d'une petite société amérindienne extrêmement fragilisée et qui ne peut tolérer aucun vacillement par rapport à la coutume et qui gère absolument tout, la façon de manger, la façon de marcher, la façon de parler. Alors que normalement, donc, une société forte devrait être tolérante à l'infraction. Alors, mais ça, j'aide Vincent Ferron dans son propos en faisant en quelque sorte une transition. Donc, évidemment, c'est les questions que posent, je ne sais pas, les radars électroniques. Que vous alliez vite parce que votre femme est en train d'accoucher, que vous alliez vite à un rendez-vous avec votre maîtresse, ou que vous alliez vite parce que vous avez trop bu. La sanction est la même. Elle est également aveugle, si j'ose dire, pour un radar. Et donc, on a un bel exemple de tolérance zéro, dans lesquels il n'est pas du tout question d'interpréter l'acte, c'est le tarif. Et d'ailleurs, ces radars correspondent assez bien, ils sont efficaces d'ailleurs, tant mieux, correspondent assez bien à cette idéologie de la tolérance zéro qui a émergé dans les années 90 avec la fameuse parabole du carreau cassé qui supposait que justement, dès que je commencerais à laisser une transgression s'amorcer, j'aurais des dominos qui ne cesseraient de s'écrouler et donc on irait vers une augmentation exponentielle des maux. C'était la consigne de tolérance zéro dont les radars sont, me semble-t-il, une assez bonne illustration. On lit à marche forcée le texte de Nietzsche qui mériterait une lecture plus attentive, mais pour que nous l'ayons en commun. Généalogie de la morale, deuxième partie, paragraphe 10. À mesure que s'accroît sa puissance, une communauté accorde moins d'importance au manquement de ses membres, puisque ses membres ne lui paraissent plus ni dangereux pour l'existence de l'ensemble, ni subversifs. Le malfaiteur n'est plus chassé et privé de paix, le courroux général ne peut plus, comme jadis, se donner libre carrière contre lui. Bien plus, alors ça c'est plus discutable, bien plus on défend maintenant soigneusement le malfaiteur contre cette colère. On le protège surtout contre ceux qui ont subi le dommage immédiat. Ici, Nietzsche, quand même, je le signale, se trompe. Parce qu'il est en train de nous dire le droit protège le coupable de la vengeance. Mais il oublie que la vengeance évitait d'atteindre le coupable. C'est comme dans Tintin, lorsque le shérif au téléphone dit « On a tué 17 noirs, on n'a toujours pas trouvé le coupable ». La vengeance est indifférente à l'identité du coupable. Quand vous êtes en colère, vous tapez sur une table. Et donc, Nietzsche se trompe lorsqu'il dit que... Enfin, se trompe. Ne nous permet pas de tout à fait comprendre la situation quand il dit « le droit protège ». Alors c'est vrai, le droit protège le malfaiteur contre la colère, contre la vengeance, mais une vengeance qui chercherait à lyncher le coupable, c'est déjà une vengeance marquée par le droit. Le compromis avec la colère de ceux qui ont tout d'abord souffert du méfait les fort tentés pour localiser le cas, obvier ainsi à une effervescence, à un trouble plus grand et même général, la recherche d'équivalent pour accommoder l'affaire. Avant tout, la volonté toujours plus arrêtée de considérer toute infraction comme pouvant être expiée. C'est intéressant. Le droit considère que toute infraction peut être expiée, c'est-à-dire que toute infraction peut être réparée. Il est possible qu'elle fasse l'objet d'une réparation. Alors que quand on est dans le monde mythique, on est devant l'inexpiable, l'horreur, qui ne peut donner lieu qu'à la plainte tragique ou bain de sang. Tous ces traits qui caractérisent toujours plus clairement le droit pénal dans les phases subséquentes de son développement. Si la puissance et la conscience individuelle s'accroissent dans une communauté, le droit pénal toujours s'adoucira. Dès qu'un affaiblissement ou un danger profond se manifeste, aussitôt les formes plus rigoureuses de la pénalité reparaissent. Le créancier s'est toujours humanisé dans la même proportion qu'il s'est enrichi. En fin de compte, on mesure même sa richesse au nombre de préjudices qu'il peut supporter sans en souffrir. Il n'est pas impossible de concevoir une société ayant conscience de sa puissance au point de se payer le luxe suprême de laisser impuni celui qui l'a lésé. « Que m'importe en somme mes parasites » pourrait-elle dire alors. « Qu'ils vivent et qu'ils prospèrent. Je suis assez forte pour ne pas m'inquiéter d'eux. » Ce qui n'est pas sûr. Peut-être assez fort pour ne pas les poursuivre, mais pas pour ne pas s'inquiéter. La justice qui a commencé par dire « Tout peut être payé, tout doit être payé » est une justice qui finit par fermer les yeux et par laisser courir celui qui est insolvable. Elle finit, comme toute chose excellente en ce monde, par se détruire elle-même. Cette autodestruction de la justice, on sait de quel beau nom elle se pare, elle s'appelle la grâce. Elle demeure, comme l'on pense, le privilège des plus puissants, mieux encore, son au-delà de la justice. Voilà, c'était quelques réflexions rapides. Général, nous allons pouvoir en voir l'illustration ou l'infirmation dans la pratique du magistrat.
Merci Jean-Noël. En vous écoutant, je pensais, j'ai le bonheur de travailler dans un palais de justice historique et qui comporte quelques tableaux de son prédécesseur du XVIIe siècle et donc de l'école française. Et la chambre criminelle de ce palais de justice donc du XVIIe comportait des tableaux édifiants, comme il se doit. Et il y a un tableau qui représente le roi de Locre, Zaleucus. Et le roi de Locre était connu pour ses lois sévères, justes mais très sévères. Un digne héritier de Dracon. Et l'une de ses lois punissait l'adultère pour l'homme par... on crevait les yeux de l'homme adultère. Et donc, il y a un tableau qui représente le fils du roi qui a été pris en situation d'adultère. Et donc, on ordonne qu'il ait les yeux crevés. Le peuple s'émeut et vient supplier le roi en disant « Mais au roi, c'est ton fils. Il faut donc, j'allais dire, faire une certaine tolérance. » Et le roi donc décide de se crever un œil à lui-même et de crever un œil à son fils. Et la morale de Valère Maxime, qui raconte ça dans les grandes histoires de la justice romaine, dit « Il conjugua ainsi la tendresse d'un père et l'inflexibilité d'un roi ». On est loin de la tolérance. C'était dans la salle d'audience. Alors, je vous passe, il y avait comme ça 7 ou 8 tableaux qui sont tous aussi édifiants les uns que les autres. Pour en revenir à notre sujet, et sur les tolérances à l'infraction, quand vous m'avez demandé de venir... D'abord, le sourire m'a habité parce que demander à un parquetier d'être tolérant à l'infraction, c'est déjà un petit peu difficile. Les deux termes, c'est vrai, sont un petit peu compliqués à conjuguer car si l'on parle d'infraction, on parle de droit pénal, donc d'un droit strict, d'interprétation stricte qui définit strictement et les infractions et leurs conséquences, alors que la tolérance appellerait la souplesse, la relativité, l'écart, la latitude. Et déjà, il y a une difficulté à articuler les deux. Pourtant, et là tout de suite aussi, il m'est revenu en mémoire, j'allais dire, mon livre de chevet pendant mes années d'études, donc de Jean Carbonnier, qui était un très grand juriste, très grand législateur, très grand sociologue du droit, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Flexible droit ». On voit déjà que lui-même était assez proche de cette idée qu'on pouvait accorder deux mots qui apparemment ne le pouvaient pas. Et donc, dans ce livre, un de ses chapitres, il évoquait deux situations qui ont à voir avec notre sujet. L'une pour dire, est-ce que la loi doit toujours être efficace ou est-ce qu'une loi peut tomber en désuétude sans pour autant être inefficace? Et donc, il réfléchit sur la désuétude de la loi qui reste quand même importante, même si elle n'est pas appliquée, donc une certaine tolérance. Et puis l'autre, qui était plus pratique, il rappelait un des principes latins, à l'époque où on avait encore la langue latine pour les juristes, « De minimis non curat praetor », le juge ne doit pas s'occuper des choses minimes, il doit s'occuper de choses plus importantes et laisser les choses minimes aller et ne pas s'en soucier. Alors ça, c'est les années 60, 70, on y viendra, peut-être une société forte, en tout cas qui se croyait forte, car en contrepoint, l'année dernière, Denis Salas, magistrat, qui réfléchit lui aussi et qui parle des utopies sécuritaires, vient nous dire, aujourd'hui, dans la justice, on est dans un champ de bataille, avec une poussée de l'insécurité, il faut des réponses immédiates, des formules efficaces, des chiffres définitifs, un besoin de sécurité. Il y a manifestement un malaise qui touche la vision de l'homme qu'une société démocratique veut défendre. Et la scène judiciaire est le lieu d'une tension entre deux conceptions, soit une anthropologie guerrière, soit une anthropologie humaniste. Et il dit, dans notre société post-septembre, du 11 septembre, on confond le criminel et l'ennemi. Nous avons eu au 19e siècle déjà quelques éléments sur le criminel né, mais on a aujourd'hui un ennemi planétaire, terrorisme global, qui domine nos sociétés, et on vivrait sous la perpétuelle menace d'une agression qui autorise, même jusqu'à la suspension des droits, et qui n'autorise en tout cas aucune souplesse. Donc, à partir de ces deux bornes, un petit peu de Carbonnier et Salas, et à partir de mon lieu d'expérience, essayer de réfléchir sur cette question et essayer de vous apporter des éléments. Moi, je suis magistrat du ministère public, donc chargé d'exercer l'action publique, d'engager des poursuites ou de classer sans suite. Et c'est à partir de ce pouvoir de classer sans suite, qu'on appelle pour nous opportunité des poursuites, que je vais essayer de vous exposer quelques pistes de réflexion pour avoir ensemble où nous amener une certaine évolution de cette opportunité des poursuites qui venait, et pour répondre à une des questions que vous posez, s'opposer à la légalité révolutionnaire. Car effectivement, si le 19e siècle a élaboré une opportunité des poursuites pour le procureur de la République, c'était en opposition à la légalité révolutionnaire qui ne voulait tolérer aucune exception. Alors, cette opportunité des poursuites, elle est inscrite dans la loi, c'est un principe toujours actuel. Le procureur de la République reçoit les plaintes appréciées, les suites à leur donner, et il peut soit engager les poursuites, soit classer sans suite les procédures. C'était à peu près simple jusqu'aux années 80, et à partir des années 80, devant peut-être une augmentation de la délinquance, en tout cas une génération de magistrats, et notamment du ministère public, qui a voulu donner des réponses un peu plus diversifiées, en se disant il y a des situations dans lesquelles je n'ai pas envie de poursuivre, mais j'ai quand même envie d'avoir une réponse. Vous l'avez évoqué, cette réponse qui pouvait être, et on l'a dans la composition, l'idée qu'on pouvait rendre quand même quelque chose, sans aller jusqu'à la poursuite pénale, rendre quand même quelque chose. Et donc, on va avoir l'idée qu'on peut trouver des domaines dans lesquels on peut avoir une réparation de la victime, avoir une lettre d'excuse, on peut avoir... C'est des pratiques tout à fait prétoriennes au départ qui vont être codifiées. Pourquoi pas ? Mais on va sortir à ce moment-là du classement sans suite pour avoir des réponses pénales. On va s'engager sur un chemin qui, vous le verrez, nous pose souci aujourd'hui. Donc des réponses, dire on va apporter une réponse à l'infraction. C'était légitime, je crois, de pouvoir se dire, après tout, un certain nombre de plaignants ou un certain nombre de situations méritent qu'on ne dise pas simplement « c'est pas important » ou qu'on dise « écoutez, non, ça ne m'intéresse pas ». La figure du juge va évoluer, ceci étant, à cause de cela, car on va avoir ce juge dont on va dire « mais si vous ne répondez pas, c'est que vous ne prenez pas soin ». Et on avait une statistique, alors c'est toujours les statistiques qui introduisent le ver dans le fruit, une statistique parce que tout d'un coup, devant l'émergence du thème de la violence, on se souvient du rapport Perfit sur la violence, donc on est fin des années 70, début des années 80, face à cette montée de la violence, ou en tout cas montée de la connaissance de la violence ou de la perception de la violence, un certain nombre de politiques se disent « mais que fait le procureur de la République ?» Question légitime, et on leur dit « le procureur de la République, il classe 80% des plaintes. Oh, » 80%, c'est un chiffre monumental. Alors on dit « mais il faut qu'on sache ce que c'est. » Et commence à venir l'idée que, vous voyez, comme il y avait cette émergence de la violence ou de la perception de la violence et un chiffre qui apparaissait monumental, massif, on dit, mais finalement, n'y a-t-il pas là une difficulté? Et est-ce que le système judiciaire fonctionne bien? Et est-ce que finalement, ce n'est pas une impuissance du système judiciaire, une impuissance de la répression face à la délinquance? Et il faut déjà expliquer mieux pourquoi il y a des classements sans suite. Et donc, on va créer un outil statistique. Et créant un outil statistique, on va créer des catégories. Et créant des catégories, on va dire, mais il faudrait que vous les utilisiez le moins possible pour obtenir des réponses les plus systématiques possibles. Donc, on a ces les motifs d'une loi qui va venir en 1999, améliorer les garanties offertes aux justiciables face aux classements sans suite. Et classement sans suite, mythe et réalité, on a des grands mots pour simplement dire face à l'impuissance, il faut faire quelque chose. Et donc, il nous faut une évaluation qualitative. Alors on va créer une nomenclature, c'est comme ça, des motifs de classement sans suite. On va dire ça ne suffit pas de dire on classe, il faut dire pourquoi. Alors il y a bien sûr tous les auteurs inconnus, ça on aura une grosse partie d'auteurs inconnus, pas de difficulté, même on pourrait discuter sur certains points. Mais surtout, on va avoir l'infraction insuffisamment caractérisée, qui est une notion assez souple. Et puis, on a des choses plus importantes, le désistement du plaignant, l'état mental déficient de l'auteur, pour revenir sur cette question, la carence du plaignant, le comportement de la victime. Voilà, on essaye de différencier et on va améliorer ça jusqu'au début des années 2000. Et puis, en même temps, on se dit... Il y a quand même une vraie difficulté, c'est que la justice ne peut pas tout poursuivre. Elle n'a pas les moyens de tout poursuivre. Donc, entre poursuite et classement, il faut créer, et on va récupérer cette pratique prétorienne, on disait aux policiers, aux gendarmes, on lui disait, écoutez, l'auteur va verser une somme, l'auteur va faire une réparation, la loi va s'en emparer, puis va créer des catégories de réponses pénales alternatives aux poursuites. Sauf que, on s'est dit, mais finalement, en réalité, devant l'augmentation effective du nombre de plaintes et procès-verbaux, devant l'incapacité de les juger, notre système de mode alternatif de poursuite, qui était au départ une bonne réponse, est devenu un mode de gestion. Est devenu un mode de gestion et on a dit, il faut que vous développiez de plus en plus ces modes alternatifs de poursuite. Et on en a inventé des nouveaux régulièrement. Pour dire, et c'était au sein même de la machine judiciaire, on va gérer. On va gérer, certes, mais du coup, comment dire cela, on s'est aperçu, on a tellement amélioré l'outil statistique qu'on est venu à apprécier la qualité de la justice, non plus sur la qualité de ce qu'elle faisait, l'efficience de ses mesures, mais sur des taux de réponse pénale. Et donc, il y a eu une course au taux de réponse pénale qui est devenue sans fin et qui, jusqu'à ce jour, même si les intentions manifestées par le ministre de la Justice actuel étaient de dire on va sortir d'un cycle qui est un peu infernal parce que c'est sans fin, on a aujourd'hui des tableaux extraordinaires dans lesquels on peut dire au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau du tribunal, sur par infraction, par lieu d'infraction, quelle réponse a été donnée à l'infraction pénale. Et on est passé de 80% de classement sans suite à un taux de réponse pénale de 90%. Les poursuites étant réduites à une partie de moins en moins importante, faisant partie de ces réponses, mais 90%. C'est-à-dire qu'on essaye de réduire au minimum ces classements sans suite non justifiés. Alors, vous voyez qu'on est passé d'une idée « Oh, faudrait peut-être répondre quand même un peu mieux » à finalement l'appréciation du fonctionnement de la justice pénale, c'est-à-dire des infractions pénales, uniquement sur un taux de réponse, sur une appréciation statistique qui n'est plus du tout qualitative. Au moins, pouvait-on espérer que ce taux pouvait satisfaire le législateur, le politique, mais pas du tout. Si, j'ai eu la curiosité de chercher, les sites internet sont très bien faits, des assemblées nationales et Sénat, le nombre de questions qui évoquaient l'opportunité des poursuites. Et on s'aperçoit que c'est un lieu, c'est pas la première question, historiquement, pendant longtemps, ça a été le problème des privilèges des bouilleurs de crue. Les questions écrites étaient le lieu, pourquoi ce privilège disparaît. Mais donc, vous avez des choses étonnantes, et là, vous avez un certain nombre d'hommes politiques. Alors, si je vous dis les noms, ça ne vous étonnera pas trop. Si on retrouve M. Christian Estrosi, M. Charras, qui ne sont pas les plus grands défenseurs du système judiciaire, qui viennent dire, mais est-ce que cette opportunité des poursuites, malgré les taux de réponse, sont suffisants? Est-ce que finalement, il n'y a pas une inégalité devant la loi? Est-ce qu'on réprime de la même manière et les paysans bretons qui renversent les chauffeurs sur leur route et d'autres manifestants qui sont évidemment d'une autre bord politique? Et donc, on voit bien qu'on pourrait avoir tous les taux de réponse qu'on veut. Ça ne satisferait pas. Pourquoi? Parce que est venue, et vous le citiez, la question de la tolérance zéro. Et oui, à partir du moment où vous avez évalué un système pénal uniquement sur des chiffres et que le chiffre fixé ultime serait zéro, il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin, puisqu'effectivement, alors, cette tolérance zéro, vous le savez, elle est venue de l'Amérique et effectivement d'un ordre civil et politique à partir de la criminalité et de la peur qu'elle inspire. Et on rejoint Nietzsche sur c'est la peur. C'est la peur qui fait dire il faut ne rien tolérer. On est très loin. Je connais bien la justice des mineurs. Vous savez, on disait les premiers juges des enfants. Le premier juge des enfants dans les années 46-47 disait quand un mineur vole un vélo, c'est le mineur qu'il faut regarder et pas le vélo. Là, on est sur le vélo. La vitre brisée, on va s'accrocher à ça. Et donc, tout un courant de pensée sur la tolérance zéro, sur un discours politique qui va utiliser les mots que vous utilisiez, c'est-à-dire nous allons éradiquer la délinquance. Si quelqu'un avait trouvé depuis les sociétés primitives comment éradiquer la délinquance, mais on aurait utilisé ces méthodes. Mais de Dracon à aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Celui qui allait éradiquer, ou comme me disait un ministre de l'Intérieur, nous allons terroriser les terroristes. Ça fait partie de ces phrases politiques extraordinaires quand on y réfléchit un petit peu en disant, mais ça ne peut pas fonctionner ainsi. Donc, classement sans suite, meilleure réponse, pourquoi pas ? Évolution quantitative, pourquoi pas ? Quand ça devient le seul critère, ça commence à nous poser des difficultés. Quand ça s'allie à un courant de pensée de tolérance zéro, à ce moment-là, la machine judiciaire s'emballe et ne pourra jamais répondre. Jamais répondre. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Bah, très concrètement, aujourd'hui, tout à chacun dit « Mais puisque j'ai été victime et qu'il y a un moyen d'identifier, il faut poursuivre, que ce soit pour le vol. » Il se trouve que j'avais accepté de faire cette conférence avant de savoir que, du fait de départ non remplacé, j'allais m'occuper des contestations des classements sans suite. Vous voyez que la réalité m'a rejoint. Donc, les procureurs classent et puis ils disent dans leur imprimé, parce que c'est prévu par la loi, qu'on peut faire un recours auprès du procureur général. C'est moi qui m'en occupe au nom du procureur général. Donc, on fait un recours. Donc, je suis assailli de gens qui me disent « Mais pourquoi a-t-on classé sans suite ?» Alors, il y a des fois, c'est parce qu'on n'a pas identifié, l'enquête n'a pas permis, mais le plus souvent, on sait qui a volé les trois bûches de bois, qui a menti un peu sur le montant de ses rémunérations dans le cadre d'un dossier de divorce pour payer moins de pension alimentaire. Qui ? Mais a-t-on besoin de poursuivre cela ? A-t-on besoin ? Mais chacun évoque le droit imprescriptible de voir poursuivi celui qui a atteint sa dignité, son honneur, son tas de bois. Et alors même que nous savons que, d'abord, on ne pourrait pas poursuivre tous, mais qu'il n'est pas nécessaire, parce que, encore une fois, si nous poursuivons tout, ce serait impossible à le faire techniquement, mais même, qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle on poursuivrait tout ? Alors, j'en termine, parce que en vous écoutant, je me rappelais plusieurs situations très concrètes. Conseil de famille et inceste. Un jour, un soir, un vendredi à 18h, arrive dans mon couloir, j'étais dans un adjoint d'un procureur ailleurs, arrive une femme et son père. Mon père vient se dénoncer pour des faits d'inceste qu'il a commis sur les petites filles. C'est une situation assez rare, donc je fais asseoir le père, la fille, et j'écoute. Plusieurs mois auparavant, un ou deux ans, le grand-père avait été confondu. Les petites filles s'étaient en plein de gestes. Alors, est-ce que c'était des agressions ou viols ? Je ne peux pas le souvenir. En tout cas, de gestes d'agression sexuelle au moins sur ces petites filles. La famille, avec dans la famille une enseignante, une assistante sociale, une infirmière, enfin, des gens disent « on va régler ça entre nous », ce que vous évoquiez. Et donc, on prononce quand même une sanction interne. Le grand-père ne pourra plus voir ses petites filles. Très bien. Puis on dit au grand-père, ça serait quand même bien que tu soignes tes tendances, donc il va voir un psychiatre. Puis au bout d'un moment, le travail avec le psychiatre n'avance pas, parce que la culpabilité n'a pas été dite par un tiers. Elle n'a pas été, on ne lui a pas dit, vous êtes coupable d'eux. On lui a dit, tu ne verras plus tes petites filles. Et donc le grand-père n'en peut plus. Et donc il vient se livrer pour dire, j'ai commis des actes, et je vous en prie, intervenez, parce que... Alors, situation rare, hein, je l'ai rencontré qu'une fois, mais en vous écoutant, je me disais, voilà une situation dans laquelle on avait bien une cellule fermée, et puis en fait, c'était ingérable. C'était ingérable dans un monde qui est fait de relations, qui est fait d'extériorité, qui est fait... Comment expliquer que le grand-père ne voyait plus ses petites filles ? Voilà, donc, cette première exemple très concret du passage de la cellule à la société dans laquelle, je ne sais pas si la famille avait toléré, elle avait enfermé surtout. La culpabilité, elle ne l'avait pas traitée, car il faut la traiter, il faut une réponse. Pour autant, doit-elle être systématique ? Petite dernière histoire, j'étais dans une ville, procureur, une autre encore, et puis il y avait un individu simple qui faisait des menus cambriolages. Tout le monde le connaissait, c'est-à-dire que s'il passait le soir avec son vélo et avec des objets sur le vélo, les policiers savaient qu'il avait oublié de prendre ses cachets. Et donc on l'arrêtait, on m'appelait, moi ou mes collègues, et puis on disait, voilà, on va le ramener chez lui. Je dis, c'est très bien, vous rendez les objets, vous le ramenez chez lui. Et l'inspecteur qui me parlait, tout d'un coup, le téléphone est arraché par le commissaire de police qui est juste derrière, et il me dit, monsieur Ferron, vous ne serez toujours qu'un humaniste. Je réalise en relisant Carbonnier et de Salas que oui, je crois qu'il avait raison, à tel point que ce garçon a continué et que, à force, c'était difficile d'être toujours tolérant, donc il va en prison. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai reçu une pétition de prisonnier, je vous assure, me disant « Nous, c'est normal, mais lui, non. Lui, il n'a rien à faire en prison. C'était un petit voleur. » Voilà. C'est la seule fois de ma vie où j'ai reçu une pétition me disant « Le prisonnier, non. » C'est-à-dire qu'ils avaient exactement l'appréciation de la tolérance, c'est-à-dire que ah oui, lui, ça faisait partie de ces personnages qui devaient être tolérés dans une société, qui devaient être appréciés à leur juste valeur. Ils ne mettaient pas en péril l'ordre public. Je crains qu'aujourd'hui, ils seraient toujours en prison et je ne suis pas sûr qu'on recevrait encore des pétitions.